8h12. On a fait le tour des nouvelles depuis tantôt, mais on arrive à la nouvelle la plus importante et je pense que le thème est tout indiqué compte tenu de l'ampleur de la crise. On parle évidemment de l'affaire Max Pacioretty. Le prophète est même sorti de ses vacances.
C'est peu dire, hein?
Surtout, comme je le disais ce matin, elle ne venait...
Elle venait à peine de commencer.
Exactement, ça fait à peine quelques
mois
qu'il est en vacances. Et alors là, ça a commencé par, évidemment, la saga du tournoi de golf.
Et après mais tu sais, en fait, il faut savoir que ça dure depuis un bon moment.
Mais
là.
Disons cette semaine, là, tournoi de golf, des phases de bœufs, une poignée de main forcée. Et là, il y a Martin Leclerc qui dit « Pacioretty a demandé à être échangé ». Leclerc, Pacioretty dit « C'est pas vrai, il veut jouer à Montréal ». Puis là, je pense qu'Yvon Pedneau qui dit ben, « Finalement, ils vont finir par l'échanger ». Qu'en est-il? Et pour avoir, évidemment, une analyse fine de la situation, nous avons pensé demander à Danny Dubé de se joindre à ce panel select.
Salut, Danny.
Merci, c'est fin.
C'est fin, hein?
C'est fin. Alors, Danny, comme on dit dans les quiz, qui dit vrai?
Ben, au départ, je vais dire que c'est une situation qui m'inquiète, là. Vraiment, parce que où on est dans le dossier actuellement, on est pratiquement sur un point de non-retour. Ça, je pense, c'est assez évident. Le Canadien va probablement laisser partir un de ses joueurs les plus importants, un capitaine, un joueur qui fait partie du noyau, un des joueurs les plus prolifiques en attaque. Et sachant que le Canadien ne marque pas beaucoup de buts, moi, c'est une situation qui m'interpelle énormément. Maintenant, qui dit vrai? Ben, les deux disent un peu la vérité, là, parce que si on fait un peu la genèse de l'histoire, là, Pacioretty a, comme bien d'autres joueurs, à un moment donné, ça lui est venu à l'oreille que le Canadien est en train de le magasiner. Alors, c'est sûr qu'au début, tu entends ça, tu te dis, bon, écoute, tu fais partie de la game, c'est peut-être d'autres équipes qui appellent pour savoir. Mais finalement, quand la rumeur persiste, le joueur veut valider ça. Et au moment où la validation s'avère être positive, ben là, si c'est ça, là, ça devient une question d'orgueil. Si c'est ça, échangez-moi.
Ben, c'est justement ce que je disais. Est-ce qu'on n'a pas à faire un conflit de personnalité entre Bergevin et Pacioretty qui a atteint un point de non-retour maintenant, là?
Je ne sais pas si c'est un conflit de personnalité, mais c'est un conflit, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui anime le conflit? Je pense que il faut revenir à des situations un petit peu plus pointues. L'utilisation de Pacioretty. Comment ça que j'ai pas un joueur de centre qui me prolifique, si tu veux, qui peut m'alimenter? Pourquoi je joue là sur l'avantage numérique? Alors, il y a toutes sortes de situations qui empêchent un marqueur de marquer ou qui le dérange. Ben là, à un moment donné, ça devient un peu au cœur des discussions entre les individus, avec l'entraîneur, avec le directeur général, etc. Et quand l'équipe ne gagne pas, ben ces situations-là deviennent beaucoup plus irritantes que si c'était simplement une situation, parce que ça arrive dans toutes les équipes, là, faut pas se faire de cachette, surtout les joueurs clés. Si tu leur donnes pas ce qu'ils veulent, à un moment donné, ils vont te le faire savoir. Et c'est tout à fait normal, parce que une équipe, c'est ça. C'est l'image du joueur clé, c'est un peu l'image de l'équipe.
Alors, mais une question niaiseuse, là. Est-ce que Bergevin il est capable de gérer le talent?
Ben, il est capable de gérer le talent, jusqu'à maintenant, là, il y a eu des conflits avec des situations difficiles. C'est pas toujours juste le directeur général, parce qu'il travaille en comité, il y a quand même l'entraîneur, etc. Il y a toujours des situations qui sont plus difficiles que d'autres à gérer. Et on le sait, là, il y en a eu plusieurs et la prise de position du Canadien a toujours été une position très ferme face à leurs joueurs. Puis, d'une certaine façon, ça, c'est le bout où moi, je suis pas à l'intérieur des quatre murs, mais j'aurais tendance à penser que la plupart du temps, les équipes essaient de cohabiter avec les caractères forts. Parce
tu regardes la liste, là. C'est récent. Tu prends Subban, tu prends Markov, Radulov.
Même Lars Eller, là, même si c'est pas une vedette, ça reste c'était une tête dure. Ouais. Lars Eller, il avait quand même une tête de pioche, là, on va se le dire. Là, c'était pas un gars facile à diriger.
Puis là, mais tu rajoutes Pacioretty.
Mais des fois, et ceux qui reviennent dans le temps, faut pas non plus perdre de vue que Pacioretty avait signé un contrat de 4,5 millions, un contrat que plusieurs disaient à l'avantage du Canadien, que certains joueurs disaient que c'était un contrat trop cheap, l'association des joueurs, etc., disait « Voyons, tu peux pas signer un contrat comme ça, un joueur comme toi. » Mais Pacioretty avait à ce moment-là dit « Moi, je veux jouer à Montréal, je veux rester avec Montréal toute ma carrière, je suis bien ici. » Donc, il avait fait un peu cette démonstration-là. Alors, quand on revient dans le temps, puis là, on dit aujourd'hui, mais là, T'sais, tu veux négocier un contrat, ben, puis là, t'entends que t'es sur le marché, mais c'est sûr que ton ego, toute cette loyauté qui t'a animé pendant des années, il y a un bout là où ça graffigne, là, d'un bord comme de l'autre. Là.
Mais c'est pas. Je reviens à la question de Paul. Souvenons-vous de Vincent Le Cavalier avec John Tortorella à Tampa Bay.
Ah oui.
Il y avait un conflit entre les deux. Et à un moment donné, Jay Feaster les a réunis dans une salle. Il a dit à Tortorella, j'échangerai pas Vincent Le Cavalier. Et il a dit à Le Cavalier, je congédierai pas John Tortorella. Arrangez-vous pour que ça fonctionne.
C'est pas savoureux, ça.
Non, mais tu sais, à un moment donné, c'est pas le rôle.
Vrai, c'est une vraie histoire. T'as raison. C'est tout à fait vrai, ça.
Mais c'est pas le rôle de Bergevin de dire, écoutez, je sais pas qui est impliqué là-dedans. Est-ce que Julien est dans ça? Est-ce que,
oui,
ou bien que Jeff Molson l'assoit tout le monde dans la même salle, puis il dit, écoutez, là, arrangez-vous pour que ça marche.
Effectivement, c'est son rôle. C'est son rôle de décider ça ou de décider le contraire. Puis après, nous, notre rôle, c'est d'analyser ce qui se passe. Fait que, tu sais, rendu là, moi, ils veulent l'échanger, Pacioretty, c'est leur prérogative, c'est eux les patrons.
Ils veulent échanger un joueur, une équipe qui marque pas de but va échanger son meilleur compteur.
Oui, et capitaine.
Et capitaine.
Ça envoie le message qu'il y a un virage qui est en train de se faire, qu'on est... on essaie de faire ce virage-là sans faire trop de bruit, ce qui est impossible, là, pas à Montréal. Alors, évidemment, c'est un virage important parce que si tu laisses partir des joueurs qui font un peu figure de leader au sein de ton organisation, c'est un peu le prolongement de ton organisation. Et je trouve, bon, si on revient dans le dossier de Los Angeles, tu sais, Los Angeles, là, ils ont offert des joueurs. Ils ont offert Toffoli, ils ont offert Velarde, qui est un jeune joueur qui va faire son entrée dans la Ligue nationale cette année, un gros joueur de centre. Et il voulait vraiment faire cette transaction-là avec le Canadien, mais ils s'entendaient pas sur les chiffres. Nous, durant le repêchage, on l'a dit, durant le repêchage à la table, on a dit, Martin et moi, il est présentement à Los Angeles. Et il était effectivement à Los Angeles en train de négocier avec les Kings, mais il y avait presque 30 millions d'écart entre les deux demandes, là. Ça fait que c'est sûr que ça a avorté. Et au moment où ça ne s'est pas produit, là, c'est clair que, là, je me place dans les souliers du directeur général. Il a dû être en fusil. Là, il devait être en furie en disant, là, j'avais l'opportunité de faire cette transaction-là. On sait qu'on cohabite pour l'instant, que tout le monde veut aller chacun de son côté.
On l'envoie pas à Buffalo ou à Winnipeg, là, on l'envoie à Los Angeles.
Tu te pénalises pas, mais là, tu veux pas prendre ce deal-là, si vous me prêtez l'expression. C'est sûr que ça vient un petit peu mettre de l'huile sur le feu. Et rappelons-nous que Kovalchuk a signé un contrat avant Pacioretty et que Pacioretty et Kovalchuk avaient le même agent. Qui est l'agent? Pat Brisson. Alors là, il y a eu comme une frustration qui s'est installée du côté Pacioretty en disant, écoute, là, c'est moi qui me fais avoir. Je suis dans la ligue, je marque 30 buts par année, je demande un salaire de joueur de 30 buts, je ne l'ai pas, on prend Kovalchuk, on l'amène, on le signe avant moi, donc c'est là que tout a éclaté et qu'il a décidé de changer d'agent parce qu'il se sentait mal représenté. À tort ou à raison, là, ça, on n'est pas dans les discussions. Moi, je fais juste relater les faits, puis je ne suis pas surpris de voir que cette situation-là s'en venait, mais on l'a senti dès le début du repêchage et même durant l'année, parce que rappelez-vous, là, un joueur clé qui ne performe pas, c'est pas de sa faute. C'est toujours autour de lui que ça se passe. Ouais. Du point de vue du joueur, bien sûr.
Surtout les marqueurs, là, les marqueurs purs. Là,
merci ouais. beaucoup, Danny.
OK, une petite dernière en terminant.
Oui. Est-ce qu'il est
toujours capitaine et en uniforme lors du premier match de la saison régulière?
Je pense que oui. Parce que ça va être trop difficile de l'échanger actuellement.
Merci. Salut.
Salut, Danny.
Bye.
Il veut pas être plate, là. Et moi, je suis pas un membre de la chapelle. Moi, j'étais un pèlerin qui passe de temps en temps. Puis, tu sais, je regarde ça, là. Puis, tu sais, Pacioretty, tu le sais, là, c'est pas mon préféré, là.
Non.
Mais il me semble que ça va être plate, pas un peu, là.
Non, ça va être...
Tu sais, quand tu compares l'époque, tu avais... Je parle de spectacle, moi. Tu sais, d'un match où il se passe quelque chose, là.
Mais t'avais des personnalités sur la glace.
Tu sais, Radulov, t'avais
Radulov. Piqué, c'était une personnalité sur la glace. Là.
Oui.
C'était, même chose avec Radulov. C'était des gars expressifs qui manifestaient.
Là, c'est tout du bon monde, là, mais...
Ah non, là, il y en a pas. Écoute, peut-être un peu Gallagher.
Ouais, c'est le seul.
Part de ça, là, le gardien. Disons que le goaler, c'est pas le plus expressif. Ça, c'est pas le plus...
Je parlais de ça avec Jacques Fabi ce matin à l'aube.
Oui. Jacques Fabi dit le golfeur.
Oui, mais Jacques, il dit qu'il s'endort. Il pense qu'il va s'endormir pendant les matchs. Puis pendant ce temps-là, Piqué est en ville, deuxième fois cette semaine.
Et pour ceux qui s'intéressent, il est sur la page couverture du Sports Illustrated avec sa copine.
Qui l'inspire beaucoup.
Oui.
C'est ce qu'il dit.
The Perfect Match. C'est une édition, les Fashionable 50.
Oui.
Comment on pourrait traduire ça? Les 50 à la mode? Ou...
Oui, si on veut. Là. C'est Bass. Il est incroyable. Il aime beaucoup les sœurs Williams. Tu sais, une des sœurs qui avait été accusée d'avoir porté des vêtements trop moulants.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, elle ne pourra plus porter là, cette espèce de...
Et là, Piqué l'a défendu. Et ouais. Non, il est de bonne humeur en forme, puis ça va très bien. Il a, semble-t-il, j'ai vu ça, je ne sais pas trop où ce matin, là, 111 photos.
111 photos sur Instagram.
Il y a 111 jours durant l'été, fait que c'est pas pire.
Et plusieurs avec des... Écoute, Arnold Schwarzenegger, Rocky, ensuite de ça, des joueurs de football.
Parle-moi de ça.
Ça a été un North American Tour, je pense, cette année.
Ouais. Puis là, ben, on va reprendre nos petites affaires ici à Montréal. Il est
8h23. Nous autres, on a Carl Eisner.
Comment tu dis ça?
On a Carl Eisner, nous autres.
Tu me le présenteras. Quand tu seras sur la glace, tu me diras que c'est lui. La 132.